Vous écoutez RTL.
Curiosité est un vilain défaut.
À 5000 km au nord-est de Moscou, les sols gelés de la taïga renferment les richesses insoupçonnées de la Sibérie, des gisements immenses de minéraux.
RTL. Pour exploiter ce trésor, il fallait un mode de transport à la hauteur. C'est ainsi qu'il y a 40 ans, dans ce territoire de Sibérie orientale quasiment inhabité, fut construite la Baïkal Amour Magistrale, dite la BAM.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Traverser la Sibérie en train, relier deux sites aussi mythiques que le lac Baïkal et le fleuve Amour, c'est le défi que s'est lancé notre invité, l'écrivain Olivier Rollin. Ce n'était pas un défi physique, sauf si vous devez me contredire, mais en revanche, il fallait de la patience. Pourquoi fallait de la patience ?
Il faut de la patience parce que les trains sont, parce que les distances sont immenses et que les trains sont très lents.
C'est-à-dire très lent.
C'est-à-dire qu'ils roulent à 60 km/h en moyenne.
Ah oui, c'est très lent. Et, mais du coup, on peut voir le paysage.
Mais du coup, on a tout à fait le temps de voir la forêt arbre par arbre.
Et vous êtes plutôt un voyageur, Olivier Rollin, patient ou plutôt un voyageur pressé ?
Non, je suis un voyageur patient. Ben, les voyageurs pressés, ce sont pas des voyageurs. Non, j'aime les bateaux, j'aime les trains, j'aime les choses lentes et voilà, un peu majestueuses comme ça.
Donc cette lenteur des trains russes, c'était pour vous un cadeau. Et puis, ces trains, ils sont un peu, je ne sais pas si le mot est le bon, désuets. Il y a de ça aussi.
Oui, c'est-à-dire c'est des trains qui sont... il y a beaucoup de choses en Russie qui me rappellent l'époque de mon enfance, qui commence à être assez lointaine maintenant. Et les trains notamment, c'est des trains à l'ancienne, enfin avec un long couloir, des compartiments qui donnent...
Il y a de la moquette par terre.
Il y a des tapis souvent.
Des tapis, voilà, ouais.
Alors ce qui diffère, il y a un samovar où on va se ravitailler en thé, enfin en eau chaude. Mais c'est, oui, il y a les couchettes, la literie, on vous amène les draps bien empesés, tout ça me rappelle, enfin ça n'existe plus maintenant, les trains de nuit et tout
bien
ça.
Sûr, ouais.
Bon, puis là, il y a toute une vie qui se fait, évidemment, de compartiment à compartiment, on s'échange des trucs, des
on fait connaissance, déjà, on parle avec des inconnus, voilà. Ce qui n'arrive pas toujours dans nos vies modernes.
Dans les trains, ça n'arrive plus chez nous.
Olivier Rollin, vous racontez ce voyage dans un livre, Baïkal Amour, publié aux éditions Paulsen. Vous êtes parti seul ?
Non, alors je suis parti avec un ami à moi russe qui est un très grand ami, qui est un traducteur, qui est un interprète, mais enfin il est même, c'est surtout un grand traducteur littéraire. Et parce que j'ai honte de ça, mais ça fait je sais pas 30 ans que je vais en Russie et je parle toujours affreux, enfin très 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 mal russe quoi. Je parle assez bien pour les choses élémentaires de la vie, mais
vous comprenez le russe ?
Je comprends en général ce qui se dit, ce qui fait dire que je suis très énervant pour mon interprète, parce que comme je comprends ce qui s'est dit, je comprends à peu près ce qui s'est dit, donc oui. Quand il me traduit, je lui dis oui, j'ai compris. Bon, et quand il ne me traduit pas, je suis bien embêté.
Alors pour relier le lac Baïkal et le fleuve Amour, il faut emprunter ce qu'on appelle la BAM. C'est quoi ?
Alors Baïkal Amour Magistral, oui, magistral en russe, ça veut dire grande ligne. C'est une voie de chemin de fer alternative enfin, au transsibérien. Qui a commencé à être construite dans les... Je vous raconte l'histoire.
Ah oui, allez-y. Oui.
Bref, bon, on y est. On a du temps, allez-y.
Ça a été construit dans les années 34. Je ne sais pas exactement si c'est 34 ou 37. Enfin bon. Par Staline, c'était une idée de Staline, bien sûr. Et l'idée, c'était d'éloigner, parce que la voie du Transsibérien, elle longe la frontière chinoise pendant, je sais plus combien, mais très longtemps. Et à l'époque, en plus, la frontière chinoise, enfin, en Chine, c'était les Japonais. Et donc, ils n'étaient pas spécialement amis, la Russie soviétique et les Japonais. Et donc, pour éloigner cette voie stratégique de la Chine et du Japon et des Japonais, Staline a voulu faire construire cette voie. Donc, ça a commencé en 34. C'est jusqu'à la guerre. La guerre, évidemment, a interrompu les travaux. À ce moment-là, les travaux étaient faits uniquement par des déportés. Bon, ensuite, après la guerre, ça a recommencé avec des déportés et des prisonniers de guerre allemands et japonais. Ensuite, ça s'est interrompu de nouveau à la mort de Staline en 53. Et ensuite, il a fallu attendre 74 sous Brejnev pour que, hop, on recommence ces trucs. Et finalement, ça a été terminé en 84. Donc, c'est un chemin de fer qui a mis un demi-siècle à être construit.
Et qui a été... c'est une histoire violente aussi, avec beaucoup de morts parmi ces prisonniers, ces déportés.
Oui, voilà. Donc, en tout cas, jusqu'à la mort de Staline, ce n'était que des déportés ou des prisonniers. Bon, qui travaillaient, évidemment, dans des conditions atroces. Bon, inutile de vous dire que l'hiver, il fait, je sais pas, moins 30, moins 40, moins 50. Etc. Et donc on peut pas savoir combien, il y a eu des dizaines de milliers de morts évidemment, et souvent chaque ouvrage d'art, chaque tunnel a coûté des centaines de morts.
Oui, vous racontez notamment l'histoire du tunnel, je ne sais pas si je prononce bien, de Dus-Hallin ou Alain,
oui, mais
qui est à l'origine d'un scandale dans les années 70. Vous pouvez nous raconter cette histoire?
Oui, je ne sais pas non plus comment on prononce, parce que ce sont
des noms...
Il vous manque de traducteur, c'est ça?
Non, mais là il ne saurait même pas, parce que ce ne sont pas des noms russes, ce sont des noms des peuples autochtones, des petits peuples, comme disent les Russes, donc les Evenks ou ça. Bon, et donc ce tunnel, oui, il a commencé d'être creusé par des déportés, et qui sont morts par dizaines. Et quand on a recommencé les travaux en 70, alors là en 70 quand même il n'y avait plus de l'immense système du goulag, c'était quand même fini. Et les soldats qui sont arrivés là-bas ont trouvé des squelettes, des corps, des gens qui manifestement étaient morts de faim, des inscriptions désespérées sur un bord.
Et donc on ça les a fait avait quand même, abandonnés d'une certaine façon.
Complètement. Quoi. Et donc ça a fait quand même un certain émoi. C'était des choses dont on avait.
Et ce tunnel, il était, je crois, en partie ou complètement gelé. Comment les soldats qui ont été envoyés sur place l'ont dégelé?
Depuis la mort depuis 53 jusqu'à 70. Il avait été abandonné. Et toutes les eaux d'infiltration avaient complètement noyé le tunnel. Oui. Ensuite, c'était devenu de la glace. Donc, il y avait une espèce de bouchon de 2 km de glace. Et ils ont fini par mettre un réacteur d'avion sur un wagon et d'allumer le réacteur. Et donc, avec le jet brûlant du réacteur, ils ont réussi à faire fondre
la glace. C'est dingue, quelle histoire.
Est-ce que tout au long de cette BAM, ce sont... ont poussé des villes qui ont pris d'ampleur. Certaines autres ont peut-être disparu à la façon des villes fantômes américaines.
Oui, parce que donc quand c'était les camps, on faisait un camp et puis les gens travaillaient. Puis après, progressivement, le camp devenait une espèce de ville de baraquement, etc. Après, quand ça a été les pionniers, des Komsomol, des jeunes communistes, alors pareil, ils faisaient des camps un peu mieux quand même, avec des baraques, etc. Et puis progressivement, là aussi, la ville, on construisait une ville à partir de ce... Donc toutes les villes sont des... Toutes les villes sauf une, je crois, sont des villes nouvelles, enfin qui datent, qui remontent aux années 50, aux années 60, etc. Donc c'est un peu une... C'est un musée de l'Union soviétique, quoi. Tout, l'architecture, l'urbanisme, tout ça date, des années 50... Ou en tout cas...
Ce sont des petites villes ou des grandes villes ?
Ce sont des petites villes très paumées, des petites villes où tout est... toutes les usines, etc., sont en ruine parce que c'est une région qui n'est vraiment pas du tout... qui ne fait pas partie de la Russie un peu active, quoi. Donc, tout est cassé, tout est en ruine, les routes sont absolument défoncées. Enfin, c'est... Voilà. Sauf, alors, il y a une grande ville qui est Komsomolsk, sur l'Amour, justement, qui est une grande ville, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais enfin, c'est grand. Et là, qui est relativement en bon état, ne serait-ce que parce qu'il y a des industries d'armement, que les industries d'armement, ça marche quand même assez bien en Russie. Il y a notamment les usines qui fabriquent les avions Sukhoi, qui font causer d'eux en Syrie et ailleurs.
Oui. Olivier Rollin, avec vous, on va découvrir ces villes souvent moches et ces paysages qui, eux, sont magnifiques. A tout de suite sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
Ici Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Sur la BAM, qui est la Baïkal Amour Magistrale, qui est le chemin de fer qui traverse la Sibérie. On voyage dans la curiosité, on a soif de grands espaces. Nous sommes avec l'écrivain voyageur Olivier Rollin. Vous avez relié le lac Baïkal et le fleuve Amour en train. Vous avez donc circulé sur cette BAM et vous partagez vos carnets de bord avec nous sur RTL. Votre point de départ, c'est la ville de Krasnoïarsk. Vous partez à quelle époque et dans quelles conditions météo, Olivier Rollin ?
Eh bien, je pars le 9 mai de Krasnoïarsk. Je me souviens très bien parce que le 9 mai, c'est la fête de la victoire en Russie. Ils la fêtent un jour plus tard que nous. Et le 8 mai, j'étais à Saint-Pétersbourg. Et il faisait un temps de mec, quoi. Il faisait un temps formidable.
Comme aujourd'hui.
Comme aujourd'hui à Paris, France. Voilà. Et le lendemain, on arrive en avion à Krasnoyarsk, tempête de neige, voilà, les routes à moitié bloquées, etc. Et ça a été comme ça pendant ensuite 10 jours. C'est-à-dire qu'en progressant vers l'est, pendant 10 jours, on a été. Et le lac Baïkal, le nord du lac Baïkal, était encore gelé, etc.
Et alors avant d'arriver au lac Baïkal, vous faites, Olivier Rollin, une escale dans la ville de Taïchette, on dit ça ? On dit ça comme ça, ouais. Qu'est-ce qui vous frappe en arrivant ?
Ce qui me frappe, c'est que c'est pas frappant, justement.
C'est que c'est moche.
Oui, c'est vraiment une de ces nombreuses villes. Enfin, c'est une des plus, à mon avis, une des plus minables, avec une autre qui s'appelle Oostkout. Et c'est quelques rues parallèles, et puis coupées par quelques rues perpendiculaires, de moitié des trucs en bois, moitié des trucs en tôle, quelques petits immeubles. Donc, il y a encore de la neige, des plaques de neige.
Vous y baladez ?
Les rues boueuses, oui, bien sûr, je m'y balade.
Vous rencontrez les gens ?
Non, enfin non. Juste, je suis allé dîner dans un restaurant tadjik, voilà. Et
quelle ambiance dans ce restaurant, petit.
Bah, c'est assez glauque, quoi. C'est-à-dire que c'est quand on arrive, parce que je suis avec mon copain traducteur là, il y a une table de femmes, bon. Et toutes des femmes entre elles comme ça, bon. Et puis, mais enfin, avec des lumières un peu tamisées, un peu sombres, un peu violettes, dégueulasses, etc. De la musique à fond la caisse, de Joe Dassin, j'adore Joe Dassin, etc.
Et bon, c'est vrai.
Voilà, oui.
C'était et pas puis, pour vous accueillir.
C'est... Hein, oui, bon.
Et vous avez bien mangé.
Je me souviens plus. Je me souviens qu'il y avait de l'écureuil à manger, mais on n'en a pas pris justement parce qu'on est. Ah oui. Moi, je suis pour les écureuils. Et donc, et puis voilà. Puis progressivement, à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus mafieux, quoi. C'est-à-dire mafia tadjik en l'occurrence. C'est-à-dire les mecs arrivent, des gros mecs avec des vestes en cuir, etc., les crânes rasés et tout. Et puis ils commencent à se saouler un peu et tout. Enfin, ça s'est pas très mal passé, mais on sentait qu'il était temps quand même de se barrer, quoi, à la fin.
Et vous dites dans votre livre Baïkal Amour chez Paulsen Édition que cette ville et d'autres, elles sont comme figées dans les années 50.
Oui,
qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ça veut dire quoi concrètement ? Les bâtiments, rien n'a changé ?
C'est... Mais d'abord, une chose qui est curieuse, c'est que je dis aussi dans le livre, c'est qu'en général, le centre, enfin la partie la plus ancienne des villes, c'est au centre de chez nous, par exemple.
Oui,
et puis
oui.
Ensuite, alors là, c'est le contraire, parce qu'ils construisaient un camp, donc soit de déportés, soit ensuite de jeunes communistes, etc., dans les années 70. Et puis. Mais à l'extérieur. Et puis ensuite, ils construisaient une ville. Bon, mais donc maintenant, le noyau initial de la ville se trouve à l'extérieur. D'accord. Dans les banlieues, quoi, si vous voulez. Et alors, c'est des villes, oui, qui sont construites entre, je sais pas, entre les années 50 et les années 75. Et c'est très sauve, quoi, très soviétique, mais je veux dire, avec aussi des bons côtés. Je veux dire, je suis pas un contempteur complet de l'Union soviétique, hein. Il y a des espèces de,
C'est quoi les bons côtés?
Ben, le bon côté, c'est que ben, d'abord, il y avait des équipements culturels. Alors évidemment, la culture, c'était pas exactement comme on l'entendait nous. Mmh. Mais il y a toujours, presque toujours, un théâtre. Il y a une maison de la culture, Dom Culture. Bon, voilà, il y a une bibliothèque. C'est des assez grands équipements. Il y a des avenues sont très larges. Il y a des contre-allées avec des arbres. Tout ça pourrait être presque pas mal, mais sauf que c'est extrêmement mal fait, c'est du béton qui s'effrite complètement, c'est les rues donc maintenant sont défoncées et tout, mais il y a une sorte de charme, je veux dire, à ces villes-là.
Alors il y a ces villes qui vous charment, oui et non, mais bon, c'est un peu triste ce que vous dites, oui. Et puis il y a quelque chose qui va quand même charmer votre regard, c'est la taïga, vous pouvez nous la décrire ?
Ah, c'est impossible.
Ah, essayez.
Non, mais je dis, c'est, enfin, quelque part aussi.
Jetez-nous quelques adjectifs.
Je ne vais pas vous dire c'est immense, parce que ce serait vraiment banal, mais je vais vous dire ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit dans le livre, c'est un océan d'arbres. Et je vais vous dire aussi, je vais me servir de Tchekhov, parce que là, ça va, je suis couvert. Tchekhov, à la fin du 19e siècle, disait que voilà, que nul ne sait où se situent les limites de la taïga et que seuls les oiseaux migrateurs peuvent le savoir. Bon, alors maintenant, les avions et les satellites aussi le savent, mais en tout cas, c'est une forêt boréale, quoi, étendue sur je sais pas combien, des milliers de kilomètres. Je crois que ça couvre 11 fois la superficie de la France.
Ça veut dire quoi, une forêt boréale?
Eh bien, c'est une forêt de bouleaux et puis de conifères que je ne sais pas très bien distinguer entre eux, d'ailleurs. Enfin, des sapins et des mélèzes, je crois. Surtout des pins aussi.
Mais voilà, ça veut dire qu'on vous imagine dans ces trains qui sont un peu désuets, mais qui ont du coup le charme lié à leur aspect désuet, qui vont à une 60aine de kilomètres heure. Et c'est des arbres qui défilent, qui défilent. C'est un peu comme si on contemplait quoi, la mer.
Oui, c'est tout à fait. Mais moi, j'aime beaucoup. Je suis marin aussi. Et j'aime beaucoup qu'on contemple la mer. Mais cela étant, il y a quand même des villages de temps en temps. Et puis il y a aussi malheureusement beaucoup d'endroits brûlés, donc enfin des clairières qui sont faites par les incendies. Et puis on s'imagine toujours qu'on va voir un loup ou un ours, etc. On n'en voit pas, bien sûr. Mais enfin, en tout cas, on a le nez collé à la.
Mais pourquoi ça grille la taïga?
Alors ça grille parce que je sais pas, parce que les forêts brûlent de manière générale, mais mais aussi non, mais enfin une chose qu'on m'a raconté là-bas, que j'ai apprise et qui était assez inattendue, c'est que il y a évidemment, tout le monde le sait, pas mal de poivrons en Russie, ailleurs aussi, mais enfin en Russie pas mal. Mmh. Et ces gens-là, quand ils vont à la chasse, etc., ils emmènent des provisions de vodka et puis ils jettent les bouteilles. Bien sûr, il n'y a pas d'écologie. Enfin bon, ils jettent les bouteilles. Et l'été, il paraît que le soleil faisant loupe sur le verre, fout le feu à la mousse. Tout le sol est couvert de la mousse. Et c'est une chose que mangent les rennes d'ailleurs. Ouais. Et voilà, ça fait des départs d'incendie. Mais il y a tout le temps. Je veux dire, on peut pas rester une demi-heure à la vitre, comme ça, regarder défiler la forêt sans que tout d'un coup n'apparaisse une immense étendue noire avec des chicots, des troncs d'arbres qui tout noircis qui sortent.
Alors tout est gigantesque, la taïga, mais aussi le lac Baïkal. Vous pouvez nous décrire l'arrivée quand le lac Baïkal commence à apparaître là?
Ben c'est très beau. C'est très beau. Non, il est gelé encore, donc dans le nord. Oui. À ce moment-là, dans le sud, les choses sont tellement grandes. Le lac Baïkal, il fait quand même quelque chose comme 800 km de long. Et on entendait à la télévision, on voyait, il y avait des incendies de forêt justement dans le sud du Baïkal. Et nous, on était encore sous la neige, on n'a pas pu aller voir des endroits parce qu'il y avait trop de neige, etc. Bon, alors donc on voit le lac gelé, qui est comme ça, éblouissant sous le soleil ou sous les nuages. Et puis les forêts très sombres, des grands caps, enfin c'est magnifique. Et on va d'ailleurs les gens qui nous accueillaient nous amènent saluer le lac. C'est la première chose qu'on fait. On va sur une petite pointe comme ça et on va saluer le lac.
C'est la tradition.
Oui. C'est une.
On le remercie de quelque chose, c'est ça?
Bon, remercions surtout, le prix de ne pas nous embêter, parce que donc tous les ans, il y a pas mal de voitures qui ils roulent sur la glace, bien sûr, ils roulent sur la glace pour aller chasser les phoques, pour aller faire des tas de choses, mais ils roulent trop tard, ils continuent à rouler quand la glace commence à fondre. Et donc tous les ans, il y a des bagnoles qui tombent au fond du lac, et il paraît que le fond du lac, enfin qui est très très bas, est pavé de voitures. Bon, alors, mais de toute façon, on rend hommage, on respecte le lac parce que c'est une divinité... C'est le pays, c'est la Bouriatie. Bon, les Bouriates, c'est des Mongols, grosso modo. Donc, voilà, c'est un dieu aussi, le lac Baïkal.
Et lors de cette visite-là, autour du lac Baïkal, vous rencontrez deux hommes, Anatoly et Sacha. Ils vont vous raconter des histoires d'ours. On va les partager avec vous sur RTL. À tout de suite.
La curiosité. Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On ira où tu voudras, quand tu voudras.
Bah oui, un peu de Joe Dassin pour rappeler les souvenirs à notre invité Olivier Rollin, puisque c'est comme ça que vous avez été accueilli, si j'ose dire, dans le premier resto où vous vous êtes retrouvé, oui, dans l'une des villes sur le long de cette BAM, donc cette voie de chemin de fer qui traverse la Sibérie, une immensité qui nous laisse sans repère. C'est comme ça que vous décrivez les paysages que vous avez traversés, Olivier Rollin. Alors on est toujours au lac Baïkal avec deux Russes qui vous accueillent. Ils s'appellent Anatoly et Sacha. L'hospitalité russe, ça veut vraiment dire quelque chose?
Ah oui, ça c'est absolument extraordinaire. Donc ces types viennent nous chercher sur le quai. Non, je ne connaissais ni d'Adam, hein. Enfin, on connaissait quelqu'un qui connaissait. Bon, ouais. Ils viennent nous chercher, ils nous ont baladés tout le temps dans la forêt, dans la taïga justement. On dînait chez eux, des choses absolument exquises, des champignons. Vous savez, les Russes Russes s'en foutent de champignons, donc des champignons avec des œufs, avec des tas de trucs, etc. Des baies.
Des omelettes, c'est ça, des champignons.
Des omelettes aux champignons, etc. Enfin, des choses délicieuses, voilà. Et du caviar, enfin le caviar d'eau moule. Bon, c'est des œufs. C'est moins bon que du caviar d'esturgeon, mais c'est des œufs d'une espèce de truite du lac Baïkal qui s'appelle Omoul, dont ils sont très friands aussi. Ouais. Et enfin voilà, en tout cas, on bouffait très bien chez eux. Ils étaient formidables. Ils sont venus aussi, quand on est reparti, nous conduire au train. Enfin, voilà,
ils étaient curieux de votre vie, ils vous posaient des questions.
Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'ils avaient envie de vous accueillir et de passer du temps avec vous ?
Mais je crois quand même un sens on avait un ami commun, donc ça suffisait. Mais d'autre part, en effet, ils étaient curieux de savoir ce qu'on pensait. Ils étaient curieux de nous montrer aussi c'est des enthousiastes de la forêt. C'est les deux, là, Anatoly et Sacha, c'est des gens qui passent la moitié de l'année dans la forêt à chasser.
Tout seul avec leur chien, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, oui.
Et alors, ils vous racontent une histoire d'ours, notamment, ils savent repérer en fonction des traces, c'est ça ?
Oui, parce qu'évidemment, nous, on était très excités, l'idée de voir des ours. Bon, mais puis on n'en a pas vu, finalement. Bon. Mais alors, ils nous ont raconté, que justement, la période où on était là n'était pas bonne, parce que c'est la période où la neige commençait à fondre, etc. Donc les ours se réveillent de leur hibernation et ils ont faim, inévitablement. Ils n'ont pas bouffé pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois.
Et donc ils sont dangereux ?
Et donc, alors, ceux qui ont déjà trouvé à croûter ne sont pas dangereux. Alors il paraît que donc, ceux-là ont des pattes bien écartées, leurs traces sont bien écartées et bien régulières. Et les autres, les traces sont plus rapprochées, plus comme ça,
je sais pas. Brouillon maladroite.
Voilà,
énervé.
Voilà, je préfère ne pas avoir personnellement à faire le diagnostic.
L'ours, il le chasse pour le manger, pour vendre sa peau, pour tout
Non, mais il chasse pas l'ours en fait, pas tellement. Non, il respecte beaucoup l'ours. Et ce qu'ils disent, c'est le maître de la forêt. Et on n'a pas envie de le rencontrer, et lui non plus n'a pas envie de nous rencontrer.
Donc, chacun chez soi.
On se débrouille. Non, il chasse l'élan, il chasse il chasse la zibline, il chasse l'élan.
C'est quoi la zibline?
La zibline, c'est un petit animal, long.
Ça ressemble à un furet, un petit peu.
Oui, c'est un peu comme une grosse belette. Enfin, bon, voilà.
Ah oui, qui a une jolie fourrure.
Oui,
c'est
avec fourrure. C'était la fourrure la plus prisée. Je pense que ça l'est toujours, non ? Je sais pas. Enfin, sauf que maintenant les gens.
Je suis pas trop dans la fourrure, moi, mais.
Mais j'espère que les gens, les femmes, ne portent plus de fourrure. Bon, mais enfin, au 19e, 18e siècle, etc. C'était même pendant longtemps, ça a été la principale exportation du Kremlin, enfin du tsar. C'était les zibelines.
Olivier Rollin, vous racontez toutes ces histoires, toutes ces rencontres aussi dans ce livre Baïkal Amour, publié aux éditions Paulsen. Donc c'est, on l'a bien compris, l'histoire d'un voyage. Et souvent, vous traversez des lieux qui vous ramènent dans l'histoire de la Russie soviétique. Par exemple, le tunnel de Severomyïsk. Je ne sais pas si c'est bien.
Ça veut dire le Cap du Nord, oui.
Alors, ce tunnel, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Je crois qu'on est en septembre 79.
Oui, mais il s'est passé, enfin, moi, je ne sais pas exactement, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ça a été complètement caché.
Oui.
Mais enfin, en perçant le tunnel, ils sont arrivés dans un lac, sur un lac souterrain, avec une pression gigantesque.
Donc, ils ont percé le lac souterrain,
c'est ça ? Ils ont percé le lac, et donc, il y a eu un torrent, mais avec une puissance inouïe, qui a bousculé toutes les machines, les énormes machines, vous savez, les tunneliers, etc. Et donc, il y a eu quantité de morts. Mais combien on ne l'a pas dit à l'époque.
Complètement étouffé. Donc, c'est l'époque Brejnev.
Oui, c'est ça. À l'époque, tout était supposé bien se passer. Quoi.
Et du coup, il a fallu attendre combien d'années pour qu'il rentre en service ?
Je crois que c'était en 80, je crois qu'ils ont recommencé, enfin, qu'ils ont pu ouvrir le tunnel. Quoi.
Ouais.
Mais on est quelquefois étonné. Moi, j'aime bien les Russes, donc je ne dis pas exprès du mal d'eux. Mmh. Mais quelquefois, c'est vrai que c'est assez poétique quand même, parce que il y a un tunnel, je ne sais plus lequel, qu'ils avaient commencé à creuser des deux côtés, et paraît-il, ils n'avaient pas de moyen de je ne sais pas comment ça s'appelle, d'alignement, quoi. C'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien arriver, ils pouvaient très bien creuser à 10 mètres.
Ils ne savaient pas comment se rejoindre,
voilà,
quoi.
Creuser, ils avaient dit, ils sont où, ils se retrouvaient.
Après, il y a un ingénieur sérieux qui avait travaillé dans le métro, sur le métro à Moscou, etc., qui est venu, qui a rectifié les choses. Mais il y a quand même souvent une espèce de de, oui,
de poésie, bon. C'est ça, voilà, d'approximative. Oui.
Davaï, on dirait. Allez, on y va.
On dit comment
Davaï,
oui. C'est un peu Yalla, quoi. C'est, voilà, c'est un peu la même chose. Olivier Rollin, il y a aussi dans ces régions que vous traversez une histoire d'uranium, une sorte de fièvre de l'uranium. Oui. On peut dire ça comme ça, sauf que c'est pas la fièvre de l'or au Far West. Là, on est quoi? Dans un programme d'État soviétique?
Oui, c'est le programme acharné pour que l'Union soviétique ait sa bombe atomique, la première bombe explose en 49. Mais donc à l'époque il n'y a que les Américains qui ont la bombe atomique, et évidemment que Staline veut avoir sa propre bombe atomique, donc on recherche partout l'uranium, on en trouve pas mal dans la région, en effet, un peu après le lac Baïkal. Et là, ben c'est pareil, ce sont des zecs, quoi, des prisonniers, enfin des déportés qui vont dans les... Enfin ça doit être sans doute les pires camps, quoi. C'est-à-dire il y avait un camp qui s'appelle le Canyon de Marbre, enfin bon, et c'était déjà très en altitude, il faisait un froid terrible, le soleil, paraît-il, même l'été, descendait à peine dans le fond du canyon, bon, et les types étaient exposés à tout ça, au froid, aux conditions de la mine, et en plus, évidemment, aux radiations. Et donc, on trouve un peu partout dans la taïga, là, justement par là, les restes, les ruines de villages de prospecteurs. Donc avec tout leur... voilà, des ruines de cabanes, des ruines de... mais tout, des culs de bouteilles de champagne, des plaques d'immatriculation de vieilles voitures, des casseroles, des trucs. Enfin, moi, j'ai ramené des petits flacons de parfum, des choses comme ça. Enfin, c'était vide, hein, mais...
On a découvert avec vous le lac Baïkal, la taïga. On a roulé sur cette BAM. Et dans un instant, je vois... Tiens, vous voyez pas le fleuve Amour?
Ah, le fleuve Amour.
À tout de suite, des curieux.
Vous écoutez RTL.
Alors, je crois qu'on a un petit... La curiosité est un vilain défaut. En russe, à vous faire écouter.
Ils n'ont pas cette expression, mais curiosité, c'est любопытность. Je ne sais pas, on pourrait inventer une phrase avec ça.
Inventer.
Любопытность – это плохое качество. Любопытность – это плохое качество. Je ne sais pas.
Voilà, il fallait quand même qu'on entende un peu de russe. Cédric Gras, c'est ça, c'était un de nos invités.
Oui, qui avait voyagé. C'est un écrivain voyageur aussi qui avait fait un grand parcours sur un brise-glace le long de l'Antarctique avec des missions scientifiques à découvrir dans nos podcasts sur RTL.fr, parce qu'on collectionne tous ces petits trésors, évidemment, à la curiosité. Ce sont des noms qui font voyager à la seconde où on les prononce. Le lac Baïkal, le fleuve Amour, on les découvre sur RTL grâce à notre invité, l'écrivain Olivier Rollin. On entend de la musique là, juste quand on voyage comme ça, en Sibérie, en Russie, on a quoi dans les oreilles? Vous écoutez quoi? Quelle est la bande originale de votre voyage?
J'écoute de la musique, oui, j'écoute de la musique, de la musique classique plutôt, à vrai dire.
La musique classique russe?
Oui, aussi de la musique classique russe, aussi quand même un peu des chants russes, j'aime beaucoup. Et par exemple, les chants de... Il y a un truc qui est magnifique, c'est les chants du Goulag chantés par Dina Vierny. Vous savez, Dina Vierny, qui était la muse de Mayol, etc., qui était russe. Et elle chantait aussi. Et...
Des chants du Goulag, c'est-à-dire des chants...
Des chants de prisonniers,
qui étaient écrits par les prisonniers et chantés par les prisonniers. Oui. Le fleuve Amour, vous y arrivez au bout de combien de jours de voyage, Olivier Rollin?
Bah, à peu près 3 semaines, mais pas quand même, parce que je me suis arrêté, oui. Je me suis arrêté j'ai fait des escales, quoi. Je me suis arrêté dans un certain nombre de villes, mais à peu près 3 semaines, oui, c'est ça.
C'est quoi la première impression quand on découvre le fleuve Amour? Est-ce qu'il est à la hauteur de son nom, ce fleuve?
Oui, il est, oui, tout à fait. Il est à l'endroit, enfin, à Komsomolsk, là, il est immensément large. Enfin, oui, il est vraiment très, très, très large. Et avec des îles, etc. Et très beau, à ce moment-là, il a dégelé, il y a encore des plaques de glace qui descendent, mais enfin, il a quand même dégelé. Et c'est comme une espèce de bras de mer avec des falaises de l'autre côté.
Alors, j'ai une question complètement idiote, mais les Russes l'appellent le fleuve Amour ou traduisent le mot Amour en russe?
Non, oui. Il n'y a qu'en français qu'il porte ce nom magnifique. Enfin, puisque en russe, il s'appelle Amour, mais Amour, ça ne veut rien dire. Enfin, l'amour, c'est Lyubov. Bon, l'amour en traître.
C'est nous qui l'avons traduit.
Sentiment.
Ou il s'appelle
Non, c'est un nom bouriade, je crois, qui veut dire. Je ne sais plus ce que ça veut dire.
Ah, ça veut dire l'amour.
Non, ça ne veut pas dire l'amour. Et il n'y a qu'en français, puisque pour un anglais non plus, ça ne veut rien dire. Le fleuve amour, c'est
même
pas
si
le fleuve love.
Le fleuve amour est un des mots de la langue française les plus connus au monde.
Oui, c'est vrai. Mais c'est un mot, donc bouriate, qui veut dire, je crois, l'eau brune ou l'eau marron ou la grande eau ou quelque chose comme ça.
Et donc, nous, on y met beaucoup de romantisme.
Oui.
Évidemment. Oui, oui. J'imagine que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez voulu
bien
aller
sûr,
jusque-là.
Oui. Mais en fait, j'étais allé, le premier voyage ce que j'ai fait dans ce qui était encore l'URSS, c'était 1986,
oui.
sous Gorbatchev, là. Et j'étais allé jusqu'à, non pas jusque-là, jusqu'à Komsomolsk, parce que là, on n'avait pas le droit d'y aller, mais jusqu'à une autre ville sur le fleuve Amour. Et je me souviens, j'avais marché sur la glace du fleuve Amour et j'étais allé là pour ça, pour marcher, non pas pour piétiner l'amour, certes, mais pour marcher sur ce fleuve au nom magnifique.
Qui vit autour du fleuve Amour? Est-ce qu'il y a des villages, des villes, des grandes villes?
Oui, il y a la plus grande ville, enfin après Vladivostok, la plus grande ville d'Extrême-Orient russe qui s'appelle Khabarovsk. Et puis il y a Komsomolsk, donc où j'arrive là, c'est qui est aussi une grande ville. Donc il y a deux grandes villes.
Ce sont des belles villes ou c'est...
Bah c'est pareil. Komsomolsk, c'est une belle ville soviétique, si l'on veut. Enfin, c'est des avenues extrêmement larges. Il y a un grand parc au bord de l'Amour. Il y a des immeubles un peu tarabiscotés, enfin, avec des chapiteaux, des machins, des colonnes doriques et tout ça. Enfin, tout ça, évidemment, comme d'habitude, tombe un peu en s'émiette un peu, etc. Mais disons que c'est pas mal quand même. Mmh. C'est souvent quand j'étais, enfin voilà, ça évoque des villes de Le Corbusier un peu. Enfin voilà, c'est-à-dire des grands, très grands espaces verts.
C'est un voyage dans le temps aussi.
Oui, c'est un voyage dans le temps. Oui.
Et vous en tirez ce livre Baïkal Amour, publié aux éditions Paulsen. Alors le terminus du voyage, ce n'est pas le fleuve Amour. Vous avez continué. Vous êtes et on va terminer avec cette dernière escale, l'île de Sakhaline. Alors, c'est où? Vous l'avez situé en tout début d'interview. Pour ceux qui nous rejoignent, vous nous rappelez, c'est...
Oui. Ben, si vous, donc, le Japon, c'est un certain nombre d'îles alignées, comme ouais. ça. La plus au nord du Japon, c'est Hokkaido. Après, il y a un petit détroit qui s'appelle détroit de la Pérouse, d'ailleurs, parce que c'est la Pérouse qui l'a emprunté le premier. Mm-hmm. Et au-dessus, au nord de ça, il y a encore une grande île très longue, qui est Sakhaline, qui fait donc partie, géographiquement, quoi, de l'archipel japonais. Mais, et qui a d'ailleurs était souvent japonaise, puis partagée entre les Japonais et les Russes, et puis finalement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, complètement russe.
Ça a été compliqué de vous y rendre, sur cette île Sakhaline ?
Oui, encore assez, parce que bah, il faut prendre un ferry, bien sûr, mm-hmm. et il y en a très peu, enfin, avant il y en avait 10, c'est pareil, il n'en reste plus que 2, et puis surtout, c'est russe, quoi, c'est-à-dire...
Il n'y a pas d'horaire, quoi.
Non, il n'y a pas d'horaire, rien n'est affiché, les renseignements sont donnés avec une certaine mauvaise volonté. on y arrive.
Et ça vaut le coup d'y arriver, parce que la capitale de l'île, je ne sais plus quel est le nom...
Yuzhno-Sakhaline, ce qui voilà. veut dire Sakhaline Sud.
Bon, merci de l'avoir prononcé, c'est beaucoup mieux que dans ma version. Elle dénote, pourquoi elle dénote?
Ben, des notes parce que, alors, on arrive là-bas en pleine nuit, enfin, on est arrivé à 3 heures du matin par là, et tout d'un coup, on arrive dans une ville qui est, tout est entièrement nickel, propre, etc. Et puis, le lendemain, on se balade et on n'en revient pas. Enfin, on vient de traverser ces milliers de kilomètres avec des routes qui sont plutôt des pistes, des villes qui sont à moitié déglinguées, des usines qui tournent plus, etc. Et là, tout est absolument parfait. Il y a des pelouses, des parterres floraux formidables, des tulipes, des trucs, des feux de signalisation qui gazouillent là pour que les aveugles puissent traverser.
Ultra moderne.
Tout ultra moderne.
Mais comment ça s'explique? C'est occidental d'une certaine façon. Donc ben,
oui, je pense que alors ça s'explique parce que c'est la capitale, mais enfin quand même, il y a d'autres capitales régionales qui sont pas comme ça. Je pense que c'est à cause du pétrole parce que Sakhaline, il y a le pétrole et le gaz dans le nord de Sakhaline. Alors tout le reste de Sakhaline est parfaitement russe, c'est-à-dire parfaitement déglingué. Mais la capitale, ils l'ont bien soignée. Et là, c'est absolument impressionnant, quoi.
Merci beaucoup, Olivier Rollin. Votre livre Baïkal Amour est donc publié aux éditions Paulsen. On vous le conseille sur RTL.
Vous écoutez RTL.